Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.
Une autre vie s'invente ici est aujourd'hui à Poy pour la sortie du film documentaire Histoire de cerises dans la haute vallée du Tarn. À cette occasion, nous avons rencontré M. Fabre, maire de la commune de Poy, et Frédéric Plombat, animateur de la maison de la cerise. Monsieur Fabre nous présente la commune dont il est le maire.
Je suis maire, en effet, depuis 1995, d'un village, de deux villages, Carbassas et Poy, une des communes les plus petites de l'Aveyron, en surface, 472 hectares, mais qui en population est passée de 188 habitants ou 288 dans les années 90 à 380 actuellement. La commune de Poy, au point de vue surface agricole, c'est très important au point de vue arboriculture, et nous avons après deux exploitations d'ovins. Sur la commune, il n'y a qu'une ferme, mais bon, comme je le disais tout à l'heure, la surface n'est pas énorme, et entre les zones inondables et les zones à risque, voilà, on a du mal à avoir des agriculteurs qui s'installent sur la commune. Sur la commune aussi, on a une usine Bâti Concept qui fabrique des mobil-homes et qui a quand même 15 emplois. Et puis, la particularité de la commune de Poy, c'est qu'on n'a pas d'école.
Mais on a... Il s'agit de risques naturels liés à la géographie du village, de la commune.
Oui, c'est lié aux falaises, à des terrains marneux, et qui, bon, quand il pleut trop, ça provoque des glissements de terrain. Et on a pas mal d'un plan de prévention risque de glissements de terrain et inondations qu'il faut appliquer à la lettre, et ça limite, bien entendu, tout développement d'urbanisme, de construction de maisons. Là, on a fait notre plan d'occupation des sols et plein, entre guillemets. On a un projet de faire une révision, mais bon, voilà, on ne pourra pas mettre des agriculteurs dehors, et surtout des arboriculteurs qui ont planté pas mal de cerisiers et de pruniers, et surtout que c'est deux jeunes qui viennent s'installer et qu'il faut garder dans notre milieu, puisque nous avons sur le territoire la maison de la cerise et bientôt peut-être la maison de la prune également. Tout cela, ça fait partie du développement économique et surtout touristique, parce qu'on n'avait aucune animation sur les villages sur ce plan-là. Après, on a aussi des 5 associations, dont une où on a créé des jardins familiaux, et là, ça crée vraiment du lien social. Après, on a bien entendu la maison de la cerise et une association Lumescladis qui gère un peu tout ce qui peut intergénérationnel, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, toutes les activités qu'il y a autour des loisirs. Et après, deux comités d'animation ou d'amical, un dans chaque village, où ils font plutôt tout ce qui est festif. Voilà, au point de vue.
Donc vous nous avez dit deux exploitations en élevage ovin, et sur l'arboriculture, ça représente combien d'exploitants ?
Pure arboriculture, ils sont 4. Mais bon, après, il y a un complément des fois de ressources par l'élevage d'agneaux hors sol, qu'on appelle. Parce que l'arboriculture, c'est quand même assez fragile. Du part principale difficulté, c'est le gel. Mais quand il gèle, il n'y a pas de ressources derrière. Après, comme la dernière, ça a été la pluie. Voilà, on dépend vraiment de la nature et du temps, et bien souvent, ces jeunes arboriculteurs, il faut qu'ils aient soit de la surface, soit de la quantité, et après, un complément de ressources par les agneaux, d'autres c'est le champignon, voilà. Il faut un complément de ressources pour pouvoir vivre.
Vous avez parlé également d'activités semi-industrielles avec la construction des bungalows. Est-ce que les gens qui travaillent là habitent également la commune de Poy ?
Il y en a un ou deux qui habitent sur la commune. Après, c'est Millau tellement proche, voilà, c'est des gens qui viennent de Millau. Et c'est, bon, il y a des emplois fixes, et après, il y a des emplois saisonniers. Parce qu'il y a des périodes où les avantages de travail, bon, c'est lié au tourisme, ça, et à la demande. Mais bon, pour le secteur, pour ceux qui y travaillent, bon, ils sont satisfaits parce que voilà, les heures sont annualisées et ça leur permet d'avoir des temps de repos à certaines périodes de l'année, quoi.
D'accord. Donc pour vous, ce qui est important dans le maintien des activités existantes sur place, si, comme vous l'avez dit, il n'y a plus trop de réserves foncières, donc ça limite la possibilité d'installation, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça, à ménager tout ça?
Ça devient... Autant c'était facile à 20 ans ou 30 ans, maintenant ça se complique parce que entre, comme je disais tout à l'heure, entre nos plans de prévention, risque inondation et glissement de terrain. Après, une autre difficulté, c'est qu'il y a des bergeries d'élevage d'agneaux qui, à l'époque, on leur a dit il faut sortir des villages, aller un peu plus loin, parce que par rapport à le voisinage et tout ça, maintenant, ils ne sont pas assez loin. Et il y a une loi en montagne qui empêche de se développer au point de vue urbanisme au-delà de la ferme qui s'est déjà déplacée. Et là, on crée après d'autres villages, ce n'est pas le but maintenant de la politique actuellement de l'urbanisme. C'est d'essayer de construire autour des villages, par souci d'économie des réseaux, de déplacement. Voilà, on en revient aussi par rapport à la vie actuelle, les circuits courts. Mais là, c'est pareil, un peu. Il faut éviter les déplacements, il faut essayer de ne pas créer aux collectivités davantage de frais. Parce que si on construit notre logement, notre village à 4 ou 5 km, il faut tous les réseaux, il faut des transports. Voilà, après, il faut rechercher la solution, entre guillemets, la plus rentable maintenant pour les collectivités. Mmh. Sachant que les collectivités sont en train de perdre pas mal d'aides de l'État. Et peut-être l'avenir, là aussi, il faudra limiter nos investissements. Révision du poste, là on y pense au point de vue urbanisme, mais là aussi, si c'est pour faire une révision pour avoir juste deux terrains qui rentrent dans le règlement, ça va poser un problème de financement du projet, quoi. Voilà.
Alors j'ai vu en venant que il y avait des travaux sur le pont, C'est la RD 906, c'est ça, si je me souviens bien. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça implique pour la vie du village, ces travaux, les délais
Oui, ça n'a pas été facile de choisir la période, parce qu'on avait deux périodes, au printemps ou l'automne. Et là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à réunir les deux agriculteurs qui possèdent beaucoup de terrain sur la commune d'Aguessac, parce que le village d'Aguessac n'a plus d'agriculteurs à l'intérieur du village, à part des fermes autour. Et ça posait un problème parce que le pont est fermé pendant tous les travaux, des travaux de peinture. Alors, le pont est enveloppé au point de vue écologique, au point de vue, il ne faut pas polluer l'eau du Tarn. Et puis, après cette réunion, on a décidé de le faire au printemps parce que le délai de fermeture n'est pas le même. Au printemps, c'était 4 mois, à l'automne, c'était 5 mois. Parce qu'on a eu l'expérience de son frère un peu jumeau du pont de la Cresse qui a eu un peu les mêmes problèmes. Et c'est vrai que ce pont gêne à tout le monde. Il n'y a pas que les agriculteurs, il y a les infirmières, il y a les services de la DMR, il y a les écoles, parce que nous, on a quand même 22 élèves au public et 5 au privé à Aguessac. Et là, le ramassage scolaire, eh bien, il a fallu adapter, faire le tour par la Cresse. Et puis les gens qui travaillent par exemple à Rivière-sur-Tarn, il faut qu'ils passent soit à la Cresse, pour venir amener leurs enfants qu'ils ont à l'école d'Aguessac, et vice-versa, il y en a qui travaillent à Millau, qui sont obligés d'aller à Millau, d'amener leurs enfants à Aguessac et repartir travailler. Alors c'est sûr que là, c'est demi-heure le matin, demi-heure de plus le soir, dans l'amplitude de la journée qui, pour des enfants, sera assez longue. Mais je pense que le résultat, après, c'est un pont qu'il fallait, depuis 1970, il n'avait pas été entretenu. À un moment donné, il faut choisir. Bon, en plus, il faut s'adapter maintenant à l'écologie. On ne peut pas polluer une rivière comme il se faisait à l'époque. Voilà. Et puis surtout qu'on a des réserves d'eau qui peut-être viennent de notre rivière, le Tarn aussi.
Frédéric Plombat, animateur à la Maison de la Cerise.
La Maison de la Cerise, alors au départ, c'est un projet communal. Et puis qui maintenant est géré par une association, mais où la commune est fortement impliquée encore. Donc c'est un projet qui a pour but de faire parler de la cerise, et notamment, enfin, de faire la promotion de la cerise, et notamment auprès des touristes qui viennent en été. C'est parti d'un constat très simple, c'est que les cerises dans la vallée, la période de récolte, c'est le mois de juin. Or, à cette période, il n'y a pas encore beaucoup de touristes. Et pendant la pleine saison, il n'y a plus de cerises. Et on s'est aperçu que la plupart des touristes qui venaient voir, qui venaient dans notre région, repartaient de là sans savoir que la vallée était une région productrice de cerises, que c'était même une des productions principales de la vallée. Et de ce constat est née la volonté par l'équipe municipale de l'époque de créer la Maison de la Cerise.
Quand est-ce qu'a démarré le projet ?
Alors, la Maison de la Cerise a ouvert en 99, l'été 99. Mais c'est un projet qui était effectivement plus ancien. Par contre, effectivement, entre la Maison de la Cerise en 1999 et celle de 2015, il y a quand même, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Ne serait-ce que physiquement déjà, puisque la maison a grandi. Alors, dans la maison, on trouve, il y a plusieurs entités. Il y a un musée. Il y a une partie vente de produits régionaux et notamment de produits à base de cerises. On a un verger conservatoire sur les variétés anciennes. Un circuit d'interprétation dans les cerisiers que l'on peut faire soit seul, soit accompagné par la Maison de la Cerise. Donc l'association a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités et des activités très différentes. Ça peut aller de l'animation, ça peut aller de l'animation touristique jusqu'à la production, puisque la plupart des produits qu'on fait à la Maison de la Cerise sont faits par des artisans locaux, mais c'est la Maison de la Cerise qui, quelque part, a impulsé la création de ces produits. Et puis après, donc, il y a toute la partie muséographie, et donc, comme je disais tout à l'heure, qui a doublé de surface depuis 15 ans, puisqu'on s'est agrandi.
Et sur le volet interprétation, j'ai vu sur votre site internet que vous proposiez des randonnées à thème, c'est ça ?
Voilà, alors ça, c'est plus dans la partie animation touristique, c'est pendant l'été ou alors après hors saison avec des groupes qui en font la demande. On amène les visiteurs dans les vergers. Alors on a un circuit sur la commune au-dessus de Poy qui permet de resituer justement cette production dans son terroir, dans son paysage, dans son environnement. Et ça permet d'expliquer aux gens qui ne sont pas forcément en lien avec les productions agricoles d'une manière générale que une production ne se fait pas par hasard. On n'a pas fait ici des cerises complètement par hasard. C'est parce qu'il y a un terroir qui s'y prête. Et alors, comment est-ce qu'on est arrivé à la production des cerises ? C'est tout simplement parce que déjà au départ, on a quelques cerisiers. Enfin, c'est une petite production parmi d'autres. Et puis, il se trouve qu'historiquement, on a la vigne qui était la production emblématique qui rencontre une grosse période de crise. Et que, pour faire vite, petit à petit, la cerise remplace la vigne. Alors, on le retrouve par exemple au musée. Alors, quand on fait cette balade, on retrouve ce que les gens ont déjà vu au musée, mais ça permet de le voir en vrai, et c'est une toute autre dimension. Et puis aussi, ça permet de resituer cette activité au niveau du paysage, et c'est important de voir comment. Ça nous paraît important à nous de pouvoir expliquer aux visiteurs comment l'activité humaine, l'activité agricole, a façonné ce paysage-là. Et comment, rien qu'en regardant le paysage, on peut voir, on peut lire l'histoire de notre vallée et de ses productions.
Alors, sur le projet Maison de la Cerise, vous nous avez dit que c'était la commune qui avait eu la maîtrise d'œuvre, mais il y a dû y avoir des partenariats de mise en place, non pour,
Alors, bien entendu, ouais, c'est un projet qu'on a, qui a pas été, on l'a pas fait tout seul, loin s'en faut. On a été beaucoup aidé, notamment par le Parc des Grands Causses, mais aussi par la communauté de communes, le département un petit peu, la région. Par exemple, pour ce qui est du parc, ils nous aident sur justement toute la partie technique, culturelle. On fait peu de choses sans eux. Ils nous permettent d'avancer, d'être sûr de ce qu'on raconte. Et puis au niveau tourisme, par exemple, on fait partie des sites de découverte du parc. Donc là, c'est un groupe qui a été créé par le parc, de toutes les maisons à thème qu'on peut trouver sur le territoire du parc et qui permettent justement de découvrir ce qu'est le parc des Grands Causses, mais de le découvrir en profondeur, pas juste en passant rapidement, faire un petit peu de canoë-kayak dans les gorges et aller voir quatre brebis sur le Larzac, que très souvent on ne voit pas d'ailleurs. Ça permet justement d'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les brebis facilement sur le Larzac, d'expliquer pourquoi est-ce que oui, on est une région de production de cerises, mais pourquoi à Femout il n'y a pas de cerises. L'objectif de ce des maisons à thème, de ce groupe-là des sites de découverte, c'était ça, c'était de donner la possibilité aux gens qui viennent nous voir l'été de savoir où s'adresser pour avoir une information de qualité et d'avoir pour comprendre vraiment notre territoire, comment il fonctionne et de quoi il est fait.
Aujourd'hui, tout ce travail autour de la Maison de la Cerise, il trouve un prolongement, en fait, avec la sortie d'un film documentaire qui s'intitule « Histoire de cerise dans la haute vallée du Tarn ». Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce projet ?
C'est un projet qui nous occupe depuis plus de 3 ans maintenant. Toujours pareil, dans l'idée de pouvoir parler, de pouvoir présenter ce qu'est notre vallée et cette période importante pour la vallée, quand on parle des cerises, qui est en gros de la Deuxième Guerre mondiale à maintenant, quoi, la fin du 20e, la deuxième moitié du XXe siècle. On a eu l'idée de faire ça sous forme de documentaire. Alors c'est pas venu tout seul, c'est juste au départ, c'est venu d'un des membres de l'association, des anciens de l'association, qui nous a gentiment fait remarquer que y avait tout un tas de techniques en arboriculture et qui étaient plus pratiquées, ou de moins en moins. Alors, par exemple, la fabrication de paniers, la greffe, la fabrication d'un escarras, qui est l'échelle traditionnelle qu'on utilise pour ramasser les cerises. Toutes ces techniques-là étaient en train de se perdre parce que les gens qui la maîtrisaient, c'était tous des personnes âgées, voire très âgées, et que si on n'y prenait pas garde et si on n'y faisait pas attention, on risquait de perdre ces témoignages-là. Donc l'idée de départ, c'était tout simplement de recueillir ces témoignages-là et surtout d'arriver à collecter ces gestes-là. On s'est beaucoup intéressé aux gestes, à la manière de faire. Donc on a tout simplement commencé à lister tout ce qu'il y avait à faire, les personnes qui éventuellement pouvaient faire ces démonstrations-là, et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va les interviewer, simplement faire un relevé audio ? Mais c'était pas suffisant, justement, parce que le geste, on peut pas l'expliquer, c'est difficile à l'oral ou à l'écrit, ça ne rendait pas bien. Donc la solution la plus évidente, c'était de les filmer. Donc la deuxième et grande étape, c'était de choisir comment est-ce qu'on fait pour filmer. Est-ce qu'on se débrouille, nous, avec chacun avec son magnétoscope, son caméscope, pardon. On a vite vu que ça serait pas satisfaisant comme rendu. Donc on a sollicité l'Université de Toulouse, Toulouse Le Mirail, et plus particulièrement Monsieur Brian, Gérard Brian, qui est professeur, et qui nous a mis en contact avec le DTICE de Toulouse, qui est l'entité qui s'occupe de faire tous les films, de faire toutes les captures de l'université. Et donc c'est Nathalie Michaud, la réalisatrice donc du film, qui elle est venue, qui a filmé, qui a fait le montage, qui a travaillé avec nous pour pouvoir faire ce documentaire-là. Alors on a eu un long travail, il y a eu plusieurs heures, on a des centaines d'heures de rush à exploiter, et au final on aboutit sur un documentaire qui dure une heure, dans lequel on interviewe pas mal de personnes âgées qui ont justement connu cette période-là où petit à petit ils se sont spécialisés, ils sont devenus des arboriculteurs. Alors on a la chance d'avoir dans la vallée quelques personnes qui connaissent bien ça. Alors on a Monsieur Fabre, André Fabre, qui est un ancien arboriculteur. C'est au départ lui qui justement nous a dit « Dépêchez-vous les gars, parce que les gens qui ont ce savoir-faire-là, cette connaissance-là, ils ne sont pas éternels. Puis on a bien sûr Monsieur Vallès, alors qui lui connaît très très bien la question, puisqu'il a été technicien agricole, il s'est beaucoup occupé des coopératives, donc c'était vraiment une énorme chance d'avoir pu faire appel à ce monsieur. D'ailleurs, bon, c'est on le voit pendant tout le film, c'est lui qui tient le film. Et puis après d'autres personnes donc on a la famille Cartaillac par exemple à Pau, il y en a Julienne Jonquet qui nous raconte comment c'était quand elle est arrivée elle dans la vallée, c'est pareil juste après-guerre, et au total on a un film qui donne une bonne idée de ce qu'était l'ambiance à cette époque-là et comment c'est fait. Alors, on n'a pas voulu non plus que ce soit quelque chose de simplement passéiste et juste une mise sous cloche de ce qui se faisait avant, et donc on a tenu à le lier avec des jeunes, des arboriculteurs qui travaillent aujourd'hui pour justement encore mieux voir l'évolution de cette activité.
Oui, justement, ces savoir-faire, cette mémoire collective, comment est-ce qu'elle peut être utile aux actifs d'aujourd'hui ?
Alors, comment est-ce qu'elle peut être utile ? Déjà, à mon avis, ça peut être c'est intéressant pour les actifs d'aujourd'hui d'avoir en mémoire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, on peut toujours tirer des leçons du passé, ça c'est intéressant. Mais surtout, ça permet de savoir qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre pourquoi est-ce que aujourd'hui je fais des cerises et pourquoi est-ce que je ferais pas, je sais pas moi, un autre fruit ou c'est cette activité-là, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est pas arrivée par hasard, elle est venue, c'est un long cheminement. Alors en agriculture en général, les choses évoluent lentement, c'est le cas pour la cerise. Maintenant, on est quand même dans une période où tout s'accélère et où la production de cerises qui rencontre des difficultés actuellement a peut-être intérêt à de temps en temps regarder ce qui s'est fait avant et voir comment pour tirer des leçons du passé, voilà. Par exemple là, sur une question technique comme la taille, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout avant. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout tailler maintenant, mais en étudiant et en voyant comment est-ce qu'on en est venu à tailler, par exemple on s'aperçoit que petit à petit, au jour d'aujourd'hui, même s'il est hors de question d'arrêter de tailler, peut-être qu'on taille un petit peu moins que ce qu'on a pu faire ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années, parce qu'on a pu en voir les points négatifs de cette technique-là. Alors c'est sûr qu'il faut un fruit qui soit commercialisable, qui soit plus gros, et que ça passe par la taille. Mais que si on fait des fruits trop gros, ils fendent plus vite. Donc là, on va retrouver... on va s'apercevoir que, par exemple, sur les variétés anciennes, ils avaient choisi des fruits qui tenaient bien, qui résistaient plus facilement à la fente que peut-être les variétés actuelles, par exemple. Donc c'est sur des choses comme ça que ça nous paraît intéressant pour les arboriculteurs aujourd'hui, d'avoir ce regard-là, de se dire, c'est toujours intéressant, je crois, de s'arrêter un peu, de réfléchir sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, quoi. Qu'est-ce que dans ces nouvelles technologies, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est peut-être moins bon, quelles erreurs on peut éviter de refaire. Là, par exemple, on a une premier organisme de mise en commun des fruits pour pouvoir les commercialiser. Les premières coopératives datent de la toute fin, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au jour d'aujourd'hui, on voit que par exemple celle de la Crèce, qui était la coopérative la plus ancienne, a fusionné avec celle d'Aguesac. C'est intéressant de voir que en fait, ça correspond là aussi à mettre en commun un outil de travail. Puisque la vigne et au comptoir paysan, la vigne et la cerise travaillent enfin ensemble. C'est sur des choses comme ça que je trouve que ça peut être utile aux arboriculteurs d'avoir ce regard-là.
Alors ce film, Histoire de cerise dans la Haute-Vallée du Tarn, quels vont être ses modes de diffusion ?
Alors, pour le moment, on va faire une première au cinéma de Millau. Donc, c'est le jeudi 27 février à 20h45. Il y aura une deuxième production le samedi 1er mars, mais là c'est l'après-midi, c'est à 16h. Alors peut-être on en fera après en fonction, s'il y a beaucoup de gens intéressés, on pourra peut-être faire d'autres projections au cinéma. En revanche, après, on va le mettre en ligne sur le site de la Maison de la Cerise. On va le sortir en DVD qui sera commercialisé à la Maison de la Cerise. Ce film-là, on va essayer d'aller le projeter dans des écoles. On le donne à qui veut le prendre et qui veut le diffuser. Il n'est pas question pour nous de juste vendre des DVD ou de l'avoir comme ça. On va essayer, par exemple, de le présenter dans des festivals, si on peut. Donc s'il y a parmi vos auditeurs des gens qui connaissent qui est un festival, une école, un collège qui a envie d'avoir une projection, il n'y a aucun problème, on leur donne un DVD, il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'objectif, c'est de le diffuser justement. Pas question de faire de l'argent avec, notre premier souci, c'est ça, c'est de qu'ils servent de témoignage et que le plus de monde possible puisse voir, notamment, comme je disais tout à l'heure, les gestes. Voir quelqu'un greffer, c'est riche de sens. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne l'ont pas vu et qui peuvent le voir à cette occasion-là. Voir un cheval travailler la terre, c'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup, alors que c'était très très commun il y a ne serait-ce qu'une quarantaine d'années. Voir comment on fait un panier, comment on fait une escarasse, pareil, c'est des choses qu'on ne voit plus. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se remettre à travailler avec un cheval ou à tout faire avec un panier en osier, mais ça me paraît intéressant qu'au moins les générations à venir aient la mémoire de l'avoir vu, de comment ça se faisait, quoi.
Merci beaucoup Frédéric Plombat et bonne Merci. Continuation à la Maison de la Cerise et longue vie à ce film Histoire de cerise dans la haute vallée du Tarn.
Merci beaucoup.
C'était Une autre vie s'invente ici, à Poy. À bientôt pour la découverte d'un nouveau village du parc naturel régional des Grands Causses.
Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.